Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est indispensable de comprendre que l'histoire donne un rythme au futur.
Le témoin, ce vendredi, Predrag Medveyevitch et sa muse nommée Thalassa.
Dégradation de l'environnement, pollution sordide, entreprises sauvages, mouvements démographiques mal maîtrisés.
Bétonnage des côtes.
C'est cela, corruption au sens propre, au sens figuré, manque d'ordre, défaut de discipline, différentes sortes de localisme, régionalisme, népotisme, il faut le dire.
Predrag Medveyevitch vient de mourir il y a un mois, à 84 ans. Dégradation, corruption, pollution, ainsi parlait-il parfois de sa chère mère Méditerranée, et il aurait pu ajouter ces dernières années, immigration tragique, près de 10 000 personnes ont trouvé la mort en cherchant à rejoindre ses côtes européennes depuis l'an de disgrâce 2010. La Méditerranée, c'était la mer intérieure de Predrag Medveyevitch, à laquelle il avait consacré tant et tant de textes qui constituent le symétrique géopoétique de l'œuvre historique de Fernand Braudel. La Méditerranée est composée de mers plus petites. Predrag est né à 50 km de l'une d'elles, l'Adriatique, à Mostar. Mostar, en serbo-croate, le pont. Il était un pont sur la Neretva, on l'appelait le Vieux. On s'y donnait rendez-vous, on y sautait du parapet pour plonger dans la rivière, on s'y baignait sous ses arches. C'était un pont ottoman qui reliait la ville musulmane et la ville catholique. Pendant la dernière guerre des Balkans, en 1993, l'artillerie croate le détruisit. Predrag avait alors quitté son pays. Le Collège de France lui avait offert de donner un cycle de cours. Il alla ensuite enseigner à Rome, à la Sapienza. Son livre le plus célèbre, le Bréviaire méditerranéen, était traduit en 20 langues et il en parlait lui-même un bon nombre. Dès l'enfance, il s'était frotté à la vie entre exil et asile. Son père, qu'il avait accoutumé aux Russes, était en effet un juif d'Odessa, obligé après la Révolution de partir vers d'autres rivages.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Vous allez vous rendre compte si je suis un dinosaure ou pas. Dinosaure parce que je parle un français qui a disparu. Du côté paternel, je proviens d'une famille russe. Les vieilles familles russes avaient une gouvernante française. Ces gouvernantes se retrouvent parfois dans les romans de Tourguenev ou de Tolstoï, parfois courtisées par les nobles russes parce qu'elles étaient jeunes, elles cherchaient du travail en Russie. Et les enfants de ces familles russes apprenaient le français avant d'apprendre le russe. Et donc, mon père a émigré de la Russie en 1920.
Alors, Predrag, à cet âge-là, il s'est retrouvé en Yougoslavie et il a fait sa vie en Yougoslavie. C'est là qu'il a rencontré votre mère, qui était croate.
Oui, voilà. Oui, c'est donc, je suis produit d'un mariage mixte, d'un mariage d'un orthodoxe, qui était mon père, et d'une catholique croate, qui était ma mère, dans la ville de Mostar. Alors, la majorité sont les musulmans bosniaques.
Oui, alors dans la ville de Mostar, où il y avait en vérité trois religions.
En effet.
Avec des catholiques, des orthodoxes et des musulmans. Mmh. Est-ce que vous souffriez d'un complexe d'identité ou est-ce que tout était simple pour vous ?
J'ai commencé à en souffrir au début de la Deuxième Guerre mondiale. 1941, la Yougoslavie a été attaquée au mois d'avril. Cette guerre était très importante parce qu'Hitler a dit reporter l'attaque de la Russie. Comme ça, les divisions d'Hitler se sont retrouvées en Russie en plein hiver. Il ne pouvait pas fonctionner et la guerre aurait pu avoir une autre issue s'il avait attaqué un peu avant, comme ça a été projeté. Et donc mon père a été repéré, ils se sont rendus compte qu'il était d'origine russe, ça suffisait. En dépit du fait qu'il a été un russe blanc, qu'il a été un russe qui a émigré, qui n'avait rien à voir avec les régimes de l'Union soviétique, il a été pris et porté aux travaux forcés. Nous sommes restés sans rien, avec peu de moyens. Ma mère a dû travailler, ma sœur était malade de tuberculose, et je voulais aller à l'école un jour. Dit non, vous avez été d'abord baptisé dans l'église orthodoxe. Ma mère disait, mais écoutez, le Christ est orthodoxe, c'est catholique, qu'est-ce que c'est que ça, que cette histoire? Alors il se trouve un évêque qui connaissait la famille de ma mère, qui m'a mis un peu d'eau bénite sur la tête. Je devenais bon catholique, je suivais une école des religieuses catholiques, j'étais le meilleur enfant de cœur, ayant la peur de ne pas être découvert, Donc je savais mieux la messe que les autres, et donc je devenais un catholique très 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 fort.
Cette émission sera composée d'entretiens avec Frédéric Mitterrand, vous l'avez reconnu, avec Sylvie Péjut, avec Christine Siméon, avec Jacques Munier pour les différentes chaînes de Radio France. Entretien accordé par Predrag Medveyevitch. La mer Méditerranée, donc, est prolongée dès l'enfance par une autre, la mer Noire, le lieu d'aventure des Grecs, le lieu de la toison d'or. Les Grecs, qu'il va retrouver en poussant plus loin que son Adriatique vers la mer Ionienne. Tout petit, il a déjà été amariné par son père, et tout jeune, il va embarquer en compagnie de matelots, en compagnie desquels il parlera ladino, cette langue faite de mots venus d'un peu toutes les côtes et qui se sont polis les uns aux autres comme les galets d'une plage.
À l'âge de 3 ans, je commençais moi-même à respirer la Méditerranée, à manger tous les plats avec l'huile d'olive, à sentir tous ces odeurs de la mer, de la mer après une terrible bourrasque, de la mer avant, de la mer de l'aube, de la mer du soir. Et donc, une mer narrée avec obsession par mon père, une mer vue et vécue par moi-même, l'enfant. Nous avons même acheté un tout petit bateau à Chibénic. Donc ces deux mers se sont en quelque manière jointes l'une à l'autre.
La Méditerranée, c'est une vieille passion depuis toujours. Parce que je crois qu'en 1956, après un conflit familial, vous vous embarquez comme mousse sur un bateau, oui. Je crois.
J'ai fait un scandale. Je paraissais à ce moment-là.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 23 ans. Je crois que j'avais du retard parce que j'étais presque un berbe encore. J'avais un tout petit peu de moustache. J'étais très complexé parce que dans le métro, dans le tram, on me disait « Petit, lève-toi, il y a une vieille femme là ». J'avais déjà 23 ans. Donc, je paraissais très jeune, mais mes parents ne voulaient pas que je m'embarque à un bateau grec, un voilier grec. Vous savez, les préjugés qu'ont les peuples méditerranéens les uns sur les autres. Croire qu'un garçon si jeune et si juvénile comme j'étais, qu'il s'embarquerait avec les Grecs, hein. Oh, les Grecs, on sait ce qu'ils feront un garçon. Alors donc c'était un scandale et mon périple méditerranéen à partir duquel avait commencé en quelque manière la prédaction des premiers passages, des premiers méditerranéens, c'était cela. J'ai fait les Cyclades et les Sporades sur un voilier qui s'appelait d'abord Hydra. Ensuite, ils ont changé de nom, il était Dodecanesus, ce qui veut dire 12 îles. Donc, il y a ces 12 îles grecques que j'avais parcourues. Je me savais fait les travaux les plus sales. Je dormais dans une cale sordide, avec une puanteur très particulière, où le poisson pourri et le goudron s'alliaient dans les odeurs que vous imaginez. En entrant dans les ports où il y avait resté encore d'autres sortes d'odeurs, mais sans cela, on ne peut pas écrire. Je savais qu'il fallait reprendre ces vieux bloc-notes imbus d'humidité dans les cales des bateaux, parfois sales, parfois il y avait des gouttes de pluie qui étaient tombées dans une grande tempête quelque part dans la mer Ionienne. Et à cette époque, je savais que j'avais déjà commencé à écrire, j'avais publié quelques petits poèmes, quelques petits textes dans les journaux étudiantins, dans les revues d'étudiants. Et je savais que j'écrirais. J'avais déjà écrit, en fait. Mais je ne savais pas que j'allais écrire un livre sur la Méditerranée, un bréviaire méditerranéen.
Predrag Medveyevitch fraye donc depuis toujours avec le peuple des bateaux et des ports. Ceux qui ont l'expérience de la mer ont rarement celle du sable. Il lui est arrivé cependant de rencontrer des bédouins. Plus rarement peut-être des estivants sur les plages. En revanche, il connaît d'expérience les moulins et les pressoirs, les champs et les vignes. D'expérience, il n'a jamais cessé de parler et d'interroger, trouvant facilement les mots pour s'entendre avec un peu tout le monde. Et insistant sur les objets, sur les fruits. L'olive, c'est plus qu'un simple fruit, c'est un culte. La colombe, quand elle s'en vient annoncer la fin du déluge, tient un rameau d'olivier dans son bec. Et puis, on aurait garde d'oublier la vigne et la figue.
Sans parler, vous savez, d'autres, de l'orange, du citron, du cerisier, tout cela est venu peu à peu de l'autre, comme d'ailleurs les trois religions monothéistes. Et donc, il y a
en quelque manière, une mère, trois fois, trois croyances. Et donc, c'est un phénomène certainement qui mérite l'attention. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces mères? Quelle est l'attitude de ces religions face à la mer, par exemple?
Vous pointez dans le bréviaire méditerranéen le fait que, justement, les côtes méditerranéennes ont tardé à affronter la modernité. Est-ce que c'est dû, justement, au poids de cette histoire?
Certainement. Et vous savez, la patrie des mythes a souffert des mythologies. L'espace riche d'histoire a été victime de toutes sortes d'historicisme. Et puis en outre, vous savez, la tendance à confondre la représentation de la réalité avec la réalité elle-même. L'image de la Méditerranée et la Méditerranée elle-même ne s'identifient très rarement. Et donc, vous voyez, et puis lorsque s'ouvraient les nouvelles routes, les routes maritimes, lorsque se créaient les nouveaux centres, la Méditerranée, là, se berçait dans l'illusion de sa centralité historique. Il y avait une centralité historique, mais les centres de l'histoire du monde, de l'Europe et du monde, se déplaçaient.
S'est déplacé, bien sûr.
Et n'a pas suivi.
En réalité, Predrag Medvedevitch est un thalassologue qui ne pratique pas en chambre. Il n'est à l'aise avec aucune abstraction. Il use de tous les sens. Les paumes de ses mains ont été durcies par le maniement des cordages, le poids des filets. Son œil distingue les voiles très au loin. Et il a senti toutes les odeurs, celles du pont et au port, les goudrons des chantiers, les rinçures des tonneaux, l'huile de livrance, le poisson qui pourrit sur les môles. Sans cesse, il annonça une grande histoire du pain en Méditerranée qui aurait pris la suite du bréviaire. La production du pain dans son espace obéit en effet à des parcours très divers et construit un passé commun. On retrouve un peu partout les mêmes coutumes populaires. Il faut que le pain soit rompu avec les doigts, pas avec un couteau. Il doit être toujours mis à l'endroit sur la table. Il faut veiller à ce qu'il ne tombe pas à terre, etc. Néanmoins, disait-il, le pain change. Predrag Thalassologue était aussi un insulomaniaque. Il montre que c'est par les îles, qui sont autant des escales que des bastions, que le pain change. Les Grecs, avant la conquête romaine, en comptaient ainsi plus de 70 variétés. Un de ces morceaux de bravoure sur le pain, c'était le parcours de Saint-Paul. Sur le chemin de Damas, Saoul, c'était pas encore Saint-Paul, s'attarda un peu à Hippos, près de la mer de Galilée, là où se préparait un bon pain à la croûte tendre et à la mie légère, bien connue dans les environs. Ensuite, il en emporta dans son ballot une quantité suffisante pour les jours à venir. Il ne prévoyait pas l'apparition du Christ. Il s'en est retrouvé aveuglé. Et comment s'en est-il remis? En appliquant du pain chaud sur ses paupières, comme le recommandaient les guérisseurs de la région. Et quand ensuite Paul dut travailler de ses mains, il les enduisit d'une pâte à pain mêlée d'eau. Enfin, il apprit constamment à se nourrir d'un pain sans levain, celui qu'il recommanda aux Corinthiens, comme le pain de la pureté et de l'honnêteté. Cette histoire du pain méditerranéen n'a jamais été achevée vraiment. Il était encore plus excitant d'entendre Predrag Medvedevitch la narrer oralement. Il est vrai qu'il allait sans cesse du four au moulin, intellectuel yougoslave. Il se retrouvait sans cesse sollicité par ce qu'on appelait alors l'Europe de l'Est, autant que par la Méditerranée.
J'ai eu en moi une reçue de la littérature. Une reçue comme que m'avait transmise mon père par ses récits. Et j'ai appris le russe de ma quatrième année, je parlais avec mon père, le français qu'il voulait me transmettre et le russe. Donc je suis venu pouvant communiquer avec les Russes comme un russe. Je me rendais compte, la première chose, je me rendais compte qu'il y avait une langue devenue appauvrie. C'est pas le russe que j'avais appris dans la littérature russe, que j'avais senti de mon père et les amis, les Russes blancs qui étaient un peu parsemés partout, que j'entendais parfois la première fois que je venais à Paris, les taxistes. qui ne voulait pas prendre un sou de pourboire. Je ne suis pas croyant, mais j'allais rue dans rue écouter ces merveilleux chœurs.
Et cette langue s'était appauvrie à cause de la langue de bois et du style journalistique,
justement,
non?
Justement, dans le russe, on dit paprastilas, язык paprastils. Devenu non pas simple, mais devenu pauvre. Et puis, je cherchais, et ce sera mon deuxième séjour, à passer vers Odessa pour savoir ce qu'il en est de la famille, de ma famille paternelle. Par la Croix-Rouge, nous avons trouvé l'adresse d'une cousine germaine de mon père, qui était la fille d'un héros de la Révolution, d'un grand médecin qui a sauvé l'Ukraine des épidémies. Malgré cela, malgré ce père héros de la Révolution, elle a passé 5 ans au goulag. J'ai vu une femme de 80 ans qui habitait dans une chambre, il fallait sortir avant pour entrer dans les toilettes. On appelait ça toilette, je sais pas comment il faudrait appeler cet endroit. Alors elle commençait à raconter les choses. La première chose me dit, mais tu ressembles étrangement à ton oncle Vladimir. J'étais heureux d'entendre cela. Mais tu sais, Vladimir a fini sa vie dans le goulag. Et ton grand-père était aussi dans le goulag, et ta grand-mère est devenue folle après avoir tout perdu. Et moi, je me disais peut-être qu'elle est devenue folle dans le goulag, elle me raconte des choses. Mon grand-père est exilé dans le goulag, il a survécu par miracle. Il avait ce qu'on appelle l'oreille absolue. Il était capable d'accorder les pianos. Les vieux pianos d'avant la Révolution étaient déjà désaccordés. Et les commissaires voulaient que leurs fils apprennent à jouer du piano.
Les commissaires dans les camps.
Oui. Alors, il y a dans le goulag ce monsieur Matveyevitch qui sait accorder les pianos. Et en accordant les pianos, d'un commissaire à l'autre, il mangeait quelque chose, il n'est pas mort dans le goulag.
Predrag Medveyevitch aimait jouer Scriabine au piano, ici le poème de l'extase dans sa version par l'orchestre philharmonique tchèque sous la direction de Léopold Stokowski.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Notre témoin de ce vendredi, c'est Predrag Medveyevitch qui vient de disparaître il y a un mois. Enfant de Mostar, professeur à Zagreb, il a d'abord été longtemps un partisan, non seulement de l'idée yougoslave, mais du régime de Tito. Pour lui, Tito restait l'homme qui avait incroyablement résisté aux Allemands, puis à la pression soviétique après la rupture de 1948 avec Staline.
Tito était extrêmement dur et sévère à l'égard de deux catégories de personnes. À l'égard des staliniens, parce qu'il savait que les staliniens feront tout pour le détruire. Et il a fait un camp sur l'île Nue, en Dalmatie, où les mesures étaient semblables à celles des goulags. Oui. Et l'autre catégorie contre laquelle il était, c'était les ultranationalistes. Il savait que le nationalisme effréné, qui en ex-Yougoslavie avait des attaches avec le mouvement tchétnique ou Sacha. Dans mon livre « Épistolaire de l'autre Europe », il y a une lettre dure, écrite à Tito, adressée à Tito, au maréchal, en disant « Vous devez vous mettre de toutes vos fonctions, dans un socialisme à visage humain, on ne peut pas prétendre à une présidence à vie.
Ouais, vous avez fait beaucoup de provocations durant cette période-là.
Oui.
Et finalement, ils ne vous mettaient jamais en prison. Oui. Et alors, c'est très, très étrange.
Vous savez, parce que j'étais vigoureusement anti-stalinien, que j'avais écrit les textes contre le stalinisme, que j'avais salué avec l'année 48, quand la Yougoslavie s'est détachée de l'Union soviétique de Staline, ce que Ilya Ehrenburg appelait un dégel. La Yougoslavie devenait un centre d'un dégel où revenaient les avant-gardes qui ont été étouffées dans la vieille Russie. L'exemple tchèque, 68, Dubček n'arrive pas à tenir. On l'occupe. L'armée rouge prend Prague, la ville de Prague d'or que j'adore. Ils n'ont pas résisté. Budapest de 56, Staline était déjà mort, a été ravagé par les tanks soviétiques. Et Tito, du vivant de Staline, fait ce miracle de résister.
À Zagreb, Predrag fait partie d'un petit groupe d'intellectuels critiques, Praxis, qui, comme d'autres cénacles comparables, se retrouve dans le viseur du régime. Au début des années 1970, Tito limoge les libéraux croates et serbes qui étaient encore proches de son pouvoir. La lettre ouverte envoyée aux rédactions est alors une tradition en pays communiste. On écrit pour se plaindre de l'écart entre l'idéal politique proclamé et la réalité quotidienne vécue. Predrag s'en fait une spécialité. Ces lettres seront publiées en volume, l'épistolaire de l'autre Europe. Mais elles s'égrènent d'abord une à une. Tito en est le premier destinataire, puis viennent les dirigeants successifs de l'Europe de l'Est. Le tchécoslovaque Husák, le roumain Ceausescu, le soviétique Gorbatchev. Predrag Medveyevitch envoie un recommandé aux ambassades, garde un double, attend le récépissé et les conséquences plus ou moins prévisibles. Il prend ainsi un malin plaisir à demander la réhabilitation des grands noms passés à la trappe, Boukharine, Trotsky par exemple, quand il s'adresse à Gorbatchev. Un sous-ministre de la culture en Yougoslavie le traite bientôt de fléau culturel. Quant à lui, il préfère le mot, alors très valorisé, de dissident. Le dissident, ce n'est pas celui qui propose une alternative, c'est inimaginable. Ce n'est pas celui qui bâtit une opposition, c'est impossible. Non, c'est seulement celui qui pense autrement. Ici, on parle d'intellectuels engagés. Dans l'autre Europe, les intellectuels voulaient simplement ne pas être encagés.
Il y a un niveau où l'honnêteté devient une sorte de folie. Être honnête jusqu'au bout, dire jusqu'au bout ce qu'on a à dire, c'est si dangereux, c'est si difficile, c'est si risqué. Parfois, il est difficile risquer pour soi-même, mais risquer pour votre fille qui n'aura pas de place à l'université, pour votre mère ou grand-mère qui n'aura pas de place à l'hôpital, etc., etc. Est-ce qu'on a le droit de risquer pour les autres? Nous avons espéré avec les dissidents l'évolution vers une véritable démocratie. J'ai dû forger un terme, je ne sais pas comment il sonne en français, mais je l'ai forgé ici quand j'enseignais en Sorbonne, en 92-93. Démocratura. On proclame la démocratie, mais on continue encore à pratiquer une certaine dictature. Beaucoup d'entre eux déjà malades, ils ont trop souffert. Ils ne savaient pas s'exposer aux médias. Et il faut dire aussi, soyons justes, que l'Occident commençait à s'intéresser à autre chose.
La Yougoslavie n'échappait pas à ce climat de désenchantement qu'aggrava la décomposition des structures fédérales après la mort de Tito. Les hommes tendent autour d'eux des toiles d'araignée faites de préjugés historiques, de vérités nationales. Chacune de ces toiles les isole. Chacun prétend avoir des racines plus profondes que l'autre, des raisons plus convaincantes de s'approprier des territoires plus vastes. Toiles d'araignée, échiquier aussi, chaque figure déplacée menace les positions de l'autre. Quand le Serbe Milosevic et le Croate Tudjman décident de jouer chacun leur carte, les musulmans de Bosnie risquent d'être réduits à Kuya. La position de Predrag, qui s'était résolu à l'indépendance croate, mais ne voulait pas brandir les blasons nationaux, les drapeaux, les armoiries, devenait intenable. De fléau culturel qu'il était, le voilà cochon de Yougoslave. Il était un pont sur la Neretva, à Mostar, sa ville natale. En novembre 1993, l'artillerie croate choisit de détruire ce vieux pont. Il avait été construit par les Ottomans en 1566.
J'étais déjà à Paris, j'ai déjà émigré. J'entends à midi les nouvelles à la radio. Le pont de Mozart est détruit. Je dis, je ne crois pas. Et je vois les images. J'avais cru le matin que ce n'était pas possible.
Les gens ne veulent pas accepter que leur pont a été détruit, car le pont, il est construit en 1566. Et les gens ne peuvent pas accepter ça. Et ils veulent le reconstruire, ils veulent croire que leur pont est toujours là, qu'il a un cœur, qu'il vit comme si c'était une personne vivante. Vous voyez la ville, comme elle est détruite, et beaucoup de gens ne peuvent pas oublier ça. Même moi, qui n'ai pas été ici pendant la guerre en 93, je n'oublierai jamais cette guerre. Mais on essaye de passer par-dessus de ces choses-là. Il faut passer par-dessus de ça, mais il ne faut jamais l'oublier. Et justement, la chanson dit que, comme le pont parlait lui-même, il dit « Je ne suis pas détruit, je ne suis pas tombé, je vais revenir sur mes pieds. » « Ya poco geni sam ni umro ni pao, samo samora oskočiti dole. » Nastavit ću tačno tamo gdje sam stao, izronit će stari za one što ga vole, ja pogođen nisam.
Le pont coupé près de Drag Medvejević est suspendu entre asile et exil. Il va consacrer beaucoup de temps à promouvoir au sein de l'Union européenne l'idée du Sud. Les grandes orientations sont en effet définies au nord ou à l'ouest, les pays méditerranéens regardés de surplomb. En même temps, il ne se fait pas beaucoup d'illusions sur les colloques et les conférences entre lesquelles il navigue maintenant. Il est sans illusion non plus sur la Croatie, même si son président l'y nomme délégué personnel pour la francophonie. Un tribunal de Zagreb le condamne même à la prison avec sursis pour avoir traité les intellectuels hyper-nationalistes de « talibans ». C'est à Zagreb, cependant, qu'il a vécu ses derniers moments. Il est mort il y a un mois, 84 ans. Dans quel sentiment ? Alors que sa chère Méditerranée est parcourue maintenant d'embarcations de fortune comme elle n'en a jamais connu, et que près de 10 000 migrants y ont péri depuis que Predrag Matvejević avait atteint ses 80 ans.
Vous n'avez pas parlé de ma schizophrénie. En quoi consiste ma schizophrénie ? Entre les textes poétiques du bréviaire méditerranéen, des îles dont vous avez parlé, de Venise, etc., puis il y a le Premio Strega, etc. Donc textes purement littéraires et poétiques, où j'étais plus proche, disons, d'André Gide, de ceux qui ne voulaient pas faire des choses politiques. Il y a l'épistolaire de notre Europe, il y a entre asile et exil, il y a les lettres de défense de ces écrivains. Il y a un abîme entre ces deux choses-là. Et donc, cet abîme est une sorte de schizophrénie dans le sens originel du terme. J'essaye, en ce moment, de faire un pont là-dessus, sur l'abîme. J'écris depuis pas mal d'années un livre sur le pain. Une poétique du pain, pain saint et pain profane, pain laïque, si vous voulez, de quelque manière. Et ça me permettrait, puisque le pain quotidien est une chose, très réel, ça pourra me permettre de guérir de ma schizophrénie.
Texte jamais abouti. Les autres sont généralement disponibles en français aux éditions Fayard. Cette émission a été préparée par Ilinka Negulesto à partir d'entretiens de Predrag Medvejević avec Frédéric Mitterrand, Sylvie Péju, Christine Siméon, Jacques Munier. La réalisation Lise Kohn et la technique aujourd'hui Arnaud Caillet.